LED pollue le système, la planète en direct. Captain.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
On est de retour. Hier, dans le premier show de la saison, Pierre Couture s'est installé, puis on parle toujours de sujets économiques avec Pierre, puis souvent, vers la fin, fait le tour un peu des bourses, le prix du gaz, pour les habitués, vous comprenez la mécanique. Et Pierre nous a parlé d'un effet qui est arrivé dans la région de Québec, assez particulier, c'est-à-dire qu'on est passé d'un litre d'essence à peu près à 1,80 $, 82, 3, 4, tout dépendant des zones. Et on était tombé dans certains coins, disons qu'il y avait eu une anomalie statistique, mais le gaz a énormément descendu, jusqu'à 1,53 $ dans le coin de Limoilou, ce qui est une chute majeure. Là, du jour au lendemain, c'est, les gens ont fait le saut. Là. Oh my God, on vient de perdre 40 cents. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Pierre quitte, et dans la foulée, je regarde encore le prix du gaz et il remonte à 1,77 $.
C'est la magie.
Là, c'est yo-yo, pas à peu près. Oui. On part de très cher à moins cher, on repogne le milieu. Et c'est plus fréquent. Avant, il me semble, à une certaine époque, peut-être que c'est une mauvaise perception, à une certaine époque, il me semble que c'était plus prévisible. On savait qu'elle allait monter à 20 vacances de construction,
puis
qu'elle
rebaissait
à bien.
C'est pas une différence en nombre d'heures.
Mais là, c'est vraiment... ça doit être difficile à suivre. Puis d'ailleurs, je me suis dit, il faudrait parler avec quelqu'un qui suit ça, voir comment on fait maintenant pour suivre ça. Je veux pas nécessairement le faire commenter la situation de Québec, parce qu'ils regardent ça plus du côté national, mais quand même, les fluctuations du prix de l'essence, c'est j'ai de la misère à suivre une logique là-dedans. On lui a déjà parlé une couple de fois. Il est fellow spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Monsieur Yvan Clich, qui est là, re-bienvenue dans Ouellet en direct, Monsieur Clich.
Bonjour.
Comment ça va?
Ben, ça va bien, ça va très bien. On a quand même un bel été.
Oui, ça, je vous le donne. Côté prix d'essence, là, vous, est-ce que vous en perdez un peu vos notions à un moment donné? Parce que ça, il me semble que ça joue du yo-yo pas à peu près.
Ben, je vous dirais, vous savez, vous avez déjà entendu parler des économistes qui disent que tous les livres d'économie qu'on a, on les jette à la poubelle parce que ça se comporte vraiment pas comme on se les fait enseigner.
Ouais.
Il y a un petit peu de ce côté-là avec le marché cette année. Le marché du pétrole, parce que je vais vous avouer honnêtement, en début de crise, à peu près tout le monde prédisait un prix à 150 $ le baril. Ça a été beaucoup moindre que prévu.
Ouais.
Mais par contre, il y a eu beaucoup de volatilité au prix du pétrole, donc de volatilité au marché de l'essence. Puis un autre aussi facteur qu'on avait rarement vu auparavant, c'est les déclarations d'un président américain. M. Trump a annoncé une quarantaine de fois que le conflit allait prendre fin. Donc ça entraînait un reflux des prix du pétrole et donc des prix de l'essence. Donc paradoxalement, Son discours, finalement, aidait quelque part les consommateurs à maintenir les prix un peu plus bas parce que le marché se disait, coudonc, c'est lui le grand responsable,
ouais,
finalement. S'il annonce que ça va bien, ben nous, on ne peut présumer que ce qu'il dit est à peu près vrai. Alors, donc, les prix ont beaucoup varié. Maintenant, je vais quand même le dire, même si effectivement, je ne suis pas complètement habilité à commenter ce qui s'est passé à Québec, mais ça m'apparaît quand même un peu singulier. Je me demande s'il n'y a pas eu carrément une erreur technique, là, qui s'est passée, une erreur de communication qui s'est passée, parce que une variation de prix aussi grande en un court laps de temps, je m'explique mal. Il faudrait véritablement que le détaillant s'explique lui-même.
Parce que ils sont plusieurs, c'est ça le problème. C'est qu'il y a plusieurs détaillants de la région qui ont vraiment eu de l'essence en bas d'1,60 $. Et par contre, vous avez touché un bon point. Quand Trump a fait son post sur Truth Social hier aux alentours de midi et quelques, c'est là que ça a remonté. Mais je veux revenir sur ce point précis-là. Parce que c'est pas là non plus la première fois que le président Trump dit le tout et son contraire en 48 heures. À un moment donné, est-ce que les spécialistes et surtout l'industrie en tant que telle la voient pas venir? Il me semble se faire prendre une fois ou deux, je comprends. Le président dit, écoutez, ça va se régler. Ah, OK, on a de l'espoir, les marchés réagissent. Mais il me semble que ça réagit toujours. À un moment donné, on ne vient pas qu'à se dire, bon, peut-être qu'on va attendre. Là. On va peut-être attendre 24 heures là, avant de réagir, non?
Oui, votre point est bon. Puis d'ailleurs, sans tomber trop dans des enjeux un peu techniques, les gens ont suivi justement les commentaires de M. Trump puis ont regardé comment le marché réagit. Et de plus en plus, ces déclarations ont quand même moins d'effet. Mais ce qui s'est passé, par contre, les derniers jours, c'est qu'au lieu d'être optimiste, là, il y a plutôt... concédé que ben ça n'est pas nécessairement dans le bon sens là, pour le conflit. Puis là, je pense que le marché pétrolier commence à intégrer cette possibilité que le détroit d'Ormuz soit perturbé pendant maintenant de très longs mois et même jusqu'en 2027. Alors ça, je pense que il y a un élément là qui joue, c'est que maintenant, oui, le marché croit moins, M. Trump. Il réagit, mais il réagit de façon moindre, avec moins d'amplitude que les premiers temps de la crise, parce qu'on a bel et bien effectivement compris qu'il dit tout et son contraire à l'intérieur d'une période de quelques jours, quelques heures.
Quand vous analysez tout ça, quand vous jasez avec vos semblables, est-ce que vous voyez un bout à ça? Parce que même si, admettons, on nous dit que la crise en Iran est réglée, on aura compris que, bon, là, l'Iran a dit « parfait ». La dernière fois qu'on a pensé que c'était réglé, l'Iran nous a amené l'espèce de nouvelle taxe. Oui, mais on va charger maintenant une taxe sur chaque bateau. Est-ce que vous voyez une stabilité à moyen-long terme concernant le pétrole?
Non, moi, je pense que maintenant, on est vraiment inscrit dans un nouveau registre. Je pense qu'on a basculé dans un nouveau monde. Et l'Iran va assurément se servir au maximum de cette carte qu'elle a acquise avec le déclenchement du conflit pour négocier de façon extrêmement serrée avec les Américains. C'est clair qu'il n'y a aucune confiance entre les parties. Puis vous savez, pour qu'une transaction quand même puisse se faire, il faut un minimum de confiance entre les parties, en absolument aucune. Ça va être très difficile à faire, à constituer. Je veux absolument, mais clairement pas prendre parti, mais on connaît M. Trump. M. Trump, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui a signé l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, puis regardez qu'est-ce qu'il en fait quelques années plus tard.
Il a changé d'idée.
Il a changé d'idée. Donc, comment voulez-vous faire confiance à cet individu? Et c'est la même chose du côté iranien. Là. Je veux dire, absolument pas absurde, les autorités iraniennes. Donc, elle aussi...
Moi, j'ai pas confiance pas non plus.
Ben non, on n'a pas confiance. Donc, moi, je pense que justement, quand on regarde la nature des deux parties, on se dit comment véritablement ce conflit-là va pouvoir se résoudre. Moi, je pense qu'on va de solution bancale à solution bancale et que les pays arabes producteurs de pétrole dans le Golfe Persique sont véritablement mal pris. Il faut qu'ils trouvent vraiment d'autres solutions pour pouvoir acheminer leur pétrole sur le marché mondial parce qu'on commence... Je pense qu'on commence maintenant à constater depuis quelques jours qu'il n'y aura pas de solution facile et surtout durable, solide à ce conflit. Tant que M. Trump et les autorités actuelles vont être au pouvoir, ça va être extrêmement difficile.
Il y a l'histoire du détroit d'Ormuz, évidemment, mais il y a aussi l'autre détroit où on pensait peut-être pouvoir faire passer. Puis là, il y a eu d'autres menaces. Donc, ça semble très compliqué sortir le pétrole, en fait, de cette pointe persique-là, de ce coin du monde-là. Est-ce qu'à un moment donné, ces pays-là, puis là, je parle de ceux qui payent le prix, ben nous, on paye le prix à la pompe, là, mais tout ce qui est Arabie Saoudite, Oman, tous les pays, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, tous ces producteurs de pétrole-là, est-ce qu'ils sont pas en train de réfléchir à un plan B? Je peux pas croire que non. Là, t'sais, j'imagine qu'eux autres, à quelque part, c'est un empêcheur de tourner en rond, tout ça. Puis, t'sais, je regarde la carte du monde, puis je me demande par où passer. Ils sont comme encerclés. Est-ce qu'il y a un plan B, à un moment donné? Est-ce que depuis des années, on n'a pas pensé à une autre façon de sortir le pétrole de ce coin-là?
Ben, votre question était très pertinente. D'ailleurs, l'Arabie saoudite, comprenant très bien dans quel contexte elle se situe, cette région du monde, c'est vraiment la poudrière du monde. Là. J'ai assez d'âge, puis je voulais vous dire là, qu'il y a eu des conflits absolument continuellement depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant.
Ah, depuis des siècles. Oui,
depuis des siècles, puis même depuis dans notre vécu, là, c'est un conflit après l'autre. Donc, l'Arabie saoudite avait bien compris dans quel contexte elle est. Donc, elle avait fait un pipeline vers la mer Rouge, là, à l'ouest du pays. Donc, il y a le détroit d'Ormuz qui est à l'est. Il y avait la mer Rouge à l'ouest. Donc, ils se sont dit, on va aller vers là. On avait déjà constitué un pipeline. Et ils ont réussi, qui était à peu près pas utilisé, mais qui était justement le plan B au cas où il y a des difficultés dans le détroit d'Ormuz, le golfe Persique. Alors, ils ont donc détourné une partie de leur production vers cette canalisation-là. Mais là, je reviens à mon élément de poudrière. Ben là, maintenant, de l'autre côté, en mer Rouge, il y a un autre détroit pour franchir l'océan Indien, et c'est le détroit de Bab el Mandeb. Ouais. Et puis là, ben voilà, ce sont les outils qui sont là, une ethnie là, au pouvoir au Yémen depuis quelques années, puis qui s'est dit, ben tiens, moi, je vais utiliser aussi la recette iranienne, je vais bombarder ou faire des menaces sur les navires saoudiens pour obtenir des gains politiques. Donc, Ça, c'est déjà le plan B. Donc, le plan A ne fonctionnait plus. Le plan B, même saoudien, est en péril. Alors, leur seule voie maintenant d'écoulement, c'est vers le nord, le canal de Suez. Mais le canal de Suez, on peut faire circuler moins de pétrole, puis ça prend beaucoup plus de temps pour atteindre les raffineries, notamment en Asie.
Et un autre pays à passer, il faut que tu passes l'Égypte. Il faut que tu aies un accord avec l'Égypte en même temps.
Oui, exactement. Puis oui, pour répondre plus directement à votre question, oui, c'est sûr, les pays arabes producteurs de pétrole, ce sont quand même des pays avec de gros moyens. Les revenus pétroliers, ça reste quand même en milliards et milliards de dollars. C'est encore la commodité la plus échangée au monde. C'est une énergie qui est encore très importante dans l'économie mondiale. Donc, ils sont pas sans moyens. Donc, ils sont en train, effectivement, de regarder des nouvelles canalisations, des nouveaux oléoducs. Mais il n'y aura pas, et je termine là-dessus, il n'y aura pas de solution parfaite parce que ces oléoducs-là, même si on les construit, vont quand même être à portée de tir iranien, de drones, etc. Donc, pourraient être impactés par des attaques militaires venant de l'Iran. Alors, ils vont sûrement y songer. Puis ils vont sûrement essayer de trouver des solutions, mais honnêtement, pour le moment, il n'y aura pas de solution parfaite pour écouler du pétrole de cette région tant qu'il y aura cette instabilité du côté iranien.
Bon, question un peu champ gauche, mais ça fait une couple de fois qu'on se parle, là, puis je me permets de la poser. Si le Québec, parce que je sais que le pétrole, c'est une bourse mondiale, c'est un marché mondial, puis je comprends très bien la dynamique, il faut vivre avec les cours du marché, puis tout ça. Si le Québec pompait du pétrole, on est dans un univers parallèle, Le Québec fait son propre pétrole. Est-ce qu'il y a une loi qui nous oblige à participer au marché? On pourrait s'auto-produire puis s'auto-fournir en pétrole?
Bien, je vais vous répondre de façon un peu sommaire, mais il faudrait que ce soit, exemple, une société d'État. Parce que si vous avez une entreprise privée, c'est pour ça aussi que le pétrole s'échange sur le marché mondial. C'est que si vous avez du pétrole, même produit au Québec, mais vous avez un acheteur qui vous fait un meilleur prix ailleurs, ben vous allez l'envoyer là-bas. Vous avez des actionnaires, vous êtes une entreprise privée, vous voulez faire des profits. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Vous allez sortir exactement. Moi, j'ai souvent donné, sans être trop long, l'exemple du café. Si le Québec est un producteur mondial de café, ben même l'acheteur à Trois-Rivières n'aura pas nécessairement des mêmes prix parce que le producteur privé québécois dirait hey, « Moi, il y a quelqu'un en Colombie qui me fait un bien meilleur prix que toi, donc je vais l'envoyer là-bas. » Alors, c'est la même chose avec le pétrole et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des décennies. Donc, il faudrait, comme une société d'État qui se dise « OK, on développe le pétrole, mais on se le vend à nous-mêmes à un prix moindre. Mais si ce sont des opérateurs privés, eux vont vendre le pétrole là où c'est le plus payant. Puis même si c'est en Angola, ils vont l'envoyer là-bas avant de l'envoyer à Trois-Rivières. »
Mais techniquement, ce serait possible parce que vous me parlez de société d'État, puis ici, on l'a fait pour l'électricité. Donc, ce serait quelque chose de possible, mais peu probable, on va se le dire.
Oui, c'est absolument possible. Regardez, en Arabie saoudite, ils se vendent le pétrole à eux-mêmes très peu cher. Donc, les gens paient très peu cher leur électricité. C'est alimenté par des centrales au pétrole et au gaz et les prix sont, entre guillemets, subventionnés par la société d'État, Saudi Aramco, qui vend ça à des distributeurs. Et puis donc, le prix est moindre et c'est assumé par la perte de revenus qui pourrait être engrangée si on le vendait tout ça sur le marché mondial. C'est absorbé par l'État saoudien qui se dit, bon, ben, de toute façon, ce sont nos citoyens. Alors, ils en profitent et le pétrole qui nous reste, on le vend sur le marché mondial à bien plus grand prix. Alors oui, en théorie, c'est absolument possible de faire ça.
Et en théorie, puis la théorie, c'est toujours beau. Hein? T'sais, moi, j'ai toujours dit, le communiste sur papier, c'est parfait. Mais c'est quand on arrive pour l'appliquer que ça marche pas. Parce qu'il y a de l'humain, puis il y a de l'hommerie. Parlons-en de notre société d'État. On en a une, on l'a fait. Puis sur papier, c'est vrai que c'est brillant. C'est une bonne idée. On va se fournir nous-mêmes. On va se faire des bons prix. Parlons un peu d'Hydro-Québec, parce que je sais que vous êtes spécialiste pour toutes les énergies. Ce matin, il y a un député libéral sur nos ondes dans le show de Morel Live qui nous a dit ceci. Je vais vous faire écouter un extrait, ça dure 20 secondes, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, M. Clich. Donc, voici l'extrait.
Combien, selon vous, reste-t-il de mégawatts, selon vos sources?
Selon mes calculs, si je fais le calcul entre les mégawatts octroyés, en promesse, en attente, parce qu'il y a plusieurs catégories, je pense qu'on est presque dans les zéros et tendance zéro.
Première question, est-ce qu'il a raison?
Ben, écoutez, on va avoir honnêtement la réponse à tout ça assez bientôt. Là, au mois de novembre, Hydro-Québec, si je ne m'abuse, va publier son plan d'approvisionnement. Donc, elle va justement mentionner comment il y a d'énergie au Québec et comment qu'est-ce qu'on doit développer.
Mais j'imagine que ça s'estime, on sait comment on en fait.
Non, mais écoutez, Non, mais écoutez, je pense que moi, je ne suis pas... je prends ça à froid, là. Je ne pense absolument pas qu'on manque d'énergie au Québec actuellement. Je pense que le Québec a quand même assez d'énergie pour faire face aux besoins actuels. On sait qu'on est en tension, on sait qu'on a une problématique au niveau des besoins en pointe. Lorsque c'est l'hiver, ça fait 3-4 jours là, qu'il fait froid, et là, il y a des températures froides, et puis c'est dans le matin ou le soir, oui, dans ces zones-là, là, notre système s'est serré. Là. C'est assez serré. Hydro-Québec ne s'en fait pas des cachotteries et essaie justement de développer des manières, des technologies, d'inciter la population à moins consommer pour qu'on puisse passer cette période critique de façon plus sécuritaire. Mais vous savez, notre réseau, là, quand même le rappeler, le réseau d'Hydro-Québec, là, il n'est même pas utilisé à 60% de ses capacités en temps normal. En été, là, on est à 20 000 MW, on a une capacité de 40 000.
Ouais.
Donc, en général, on sous-utilise notre réseau. Le réseau, par contre, il est dimensionné pour faire face à la pointe. Et la pointe, justement, ces derniers temps et ces prochaines années, ça va être un petit peu plus compliqué à rencontrer la demande. Mais là,
en même temps, M. Klisch, quand on a besoin d'énergie, c'est souvent quand on est dans des conditions extrêmes. Quand il fait moins 40, c'est là que je ne veux pas manquer d'électricité, là.
Bien, justement, et c'est ça le grand défi d'un réseau, surtout celui d'Hydro-Québec, qui fait face à des pointes, je dirais, extrêmes, notamment en hiver, parce qu'on se chauffe à l'électricité. Alors ça, c'est là que beaucoup d'efforts sont déployés par Hydro-Québec. Hydro-Québec a annoncé une entente là, pour une centrale au gaz, là, pour la mettre en activité lors des périodes de pointe. Il y a des tarifs incitatifs également pour les consommateurs, c'est déjà en place. Il va y avoir aussi d'autres technologies et programmes qui vont être déployés pour qu'on puisse, entre guillemets, lisser la pointe et passer à travers avec un peu moins d'inquiétude là, que les dernières années. Puis les prochaines années, on ne se le cachera pas, ça va être aussi relativement serré.
Ouais.
Mais à part ces quelques heures de l'année, le réseau n'est pas utilisé à sa pleine capacité. C'est le cas présentement en été où le réseau il n'est pas sollicité à sa pleine capacité. Bien au contraire, on a encore beaucoup de place pour faire face à la demande.
Dernière question. Est-ce que l'enjeu majeur, est-ce que c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les défis du futur et la population qui grandit puis les contrats qu'on a signés pour fournir l'électricité ou l'entretien du réseau? Parce que j'ai cru comprendre encore que la moyenne des heures des citoyens sans électricité avait augmenté parce qu'il fallait remplacer systématiquement des pièces qui sont carrément passées date. Ça, c'est tout un défi aussi, là.
Oui, vous avez raison. Le réseau du Québec, malheureusement, c'est détérioré là, ces dernières années. On a beaucoup d'investissements à faire sur les réseaux. Donc, je pense que la priorité première d'Hydro-Québec, c'est vraiment de remettre son niveau en pleine forme là, pour qu'il puisse performer à pleine capacité et réduire la durée et le nombre de pannes. Ça, c'est vraiment le premier objectif qu'a Hydro-Québec. Et c'est clair que c'est un objectif important. C'est quand même plusieurs centaines de millions de dollars qui doivent être investis pour renforcer le réseau actuel. Et puis, en même temps, il faut faire justement rencontrer cet autre défi de la croissance de la demande. On le sait, on était pendant de longues années à penser que la demande allait rester assez flat au cours des prochaines années. Mais non, finalement, il y a une croissance de la demande. Alors, Hydro-Québec devra en même temps aussi déployer de nouveaux équipements pour se rencontrer justement les besoins de la demande d'électricité. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de projets éoliens, 10 000 MW là, d'ici 2035 qui vont être déployés sur le territoire québécois, des programmes d'efficacité énergétique. Alors, c'est clair que pour le moment, je vous dirais qu'Hydro-Québec fait face quand même à des défis à portée historique, à la fois à améliorer son réseau, mais aussi à accroître ses capacités de production.
C'est-tu risible, éolien, dans le sens que c'est-tu assez pour la croissance qui s'amène pour les besoins? Parce que là, présentement, on ne bouge pas. Il n'y a pas de nouveau barrage, il n'y a rien. Puis considérant qu'il y en a beaucoup qui veulent notre électricité, mais là, qu'au final, on en comprend qu'on n'est pas capable, en tout cas, on verra bien en novembre, là, mais on n'est pas capable de fournir tout le monde. On parle d'éolien, mais la quantité que ça prend, est-ce que l'éolien, ça devient risible?
Non, c'est quand même important. Là, évidemment, le problème de l'éolien, c'est que c'est intermittent.
Ouais.
Ça fournit pas ce qu'on appelle en base de façon continue, comme c'est le cas avec des centrales hydroélectriques avec réservoir, où là, vous avez une assurance que vous pouvez livrer de l'électricité en tout temps. Par contre, je vous rappelle que un des programmes d'Hydro-Québec où on veut assurer une addition de capacité en base, c'est les projets à Terre-Neuve. Alors, Hydro-Québec, justement, on attend des nouvelles pour sceller une entente définitive qui permettrait justement à Hydro-Québec de développer les importants bassins du côté de Terre-Neuve. Et ça serait évidemment de l'électricité en base qui permettrait d'assurer une certaine sécurité d'approvisionnement pour les décennies à venir.
Plein de défis. On risque de s'en reparler, M. Clich. Merci beaucoup.
Merci, au plaisir.
Merci, au plaisir. Merci. Yvan Clich, donc spécialiste en énergie au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal. Moi, quand on me dit qu'on a des gros défis, puis que c'est le gouvernement qui gère ça, je me dis « Oh! »
Mais je
on va surveiller ça. Là.
Une petite observation, parce qu'il a parlé de Terre-Neuve où on ne le sait pas si finalement il va y avoir un accord.
Ben
je
oui.
pense qu'il y en avait un. Là,
non, il n'est plus bon.
C'est
le,
ça,
le
deal
n'est
hein?
pas bon.
Fait que là, le deal n'est plus bon. Mais c'est drôle, hein? Juste vous faire remarquer ceci. Je pense que ce matin, ils en ont glissé un mot aussi. On s'en va à Terre-Neuve pour développer.
Ouais. Non, mais nous autres, ici, c'est plus développable.
OK, c'est ça, hein?
Non.
Parce que je veux dire...
Écoute, regarde, il a glissé dans la discussion. Là. On a reparti une centrale au gaz. T'as-tu entendu parler de ça, ben gros?
Non.
OK. Moi, j'ai vu ça passer dans un entrefilet, une petite nouvelle, un paragraphe.
On ne veut pas trop le dire.
La centrale de... Je pense que c'est dans le coin du centre du Québec, là. A été reparti. Ah non, c'est Beauharnois, je crois, quelque chose du genre. Là. Ça a été reparti, là, on a remis en fonction. Oui, tabarouette, Mme Fréchette, t'as pas.
C'est
pas pété bretelle avec ça qu'on brûlait du gaz. Et 13h32, on fait une pause. Au retour. Ah, oh, un nouveau chroniqueur.
Ouellet.
Yes, sir.
En direct.
De retour dans un instant.
Radio X.